franceinter.fr.
Il est 14h05 et l'on retrouve Denis Chessoux, CO2, mon amour.
Bonjour cher Dominique Delargeau. Bonjour. Écoutez, on a bien fait de quitter la Corse parce que la semaine dernière, il y avait 20 degrés, tranquille, ouais. Etc. Mais indirectement, on va en parler directement parce que je vais vous emmener non pas dans la Castaniche, qui est à l'endroit donc, de Corse où vous avez de la châtaigneraie, mais je vais vous emmener dans la châtaigneraie des Cévennes. Ce sera un des thèmes de CO2, mon amour. Et on vous retrouve pour les infos de 15h.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être !
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessoux.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Michel Thomas et Eric Morin à la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est Fabrice Laigle qui réalise l'émission cette semaine. Allez, une petite humeur, quand vous faites votre marché tranquille un beau matin, par exemple dans un petit village du Gers, pour faire plaisir à Jean-Pierre Pernaut, eh bien vous ne pensez pas tomber en pleine querelle environnementale à propos de poulets label rouge et les autres. Vous pensez, oh de beaux poulets, il a forcément été élevé, nourri au grain et oxy au pays, dans le Gers profond, collinaire et verdoyant. Oui, mon gros bêta, heureusement d'ailleurs de nombreux sont de petits producteurs travaillent bien, beaux et bons, mais en face, vu la paille irrésistible d'un marché qui rendra plus de jus que le poulet à la cuisson, eh bien nos crânes d'œufs de la technocratie aviaire industrieuse se sont penchés un peu plus sur le problème pour ériger d'ici 2 ans 4 poulaillers concentrationnaires qui sortiront chacun plus de 700 000 poulets par an. Avec tous les plaisirs annexes que ce genre d'établissement dévoué au bien-être des gallinacés de compétition entraîne, surpopulation, stress, maladie, odeur d'éjection, j'en passe et des meilleurs. Et alors aussitôt, la guerre des communiqués se met en branle, vous submerge d'informations aussi documentées que contradictoires, à ne plus savoir et quelle plume doit se vouer. Le canard, non pas du Gers mais enchaîné, nous rappelait que 4500 éleveurs sont regroupés dans une énorme coopérative qui sent bon le terroir, Vivadour, mais qui fait dans le poulet industriel, mais aussi dans le label rouge. Et pour se défendre, eh bien, ils clament que leur belle entreprise ne reprend après tout que le modèle breton. Donc les algues vertes qu'on espère un jour transformer en pâte à papier apprécieront. Effectivement, le modèle breton est un modèle à suivre. Après tout, vous me direz, y a-t-il des plages dans le Gers ? Et oui, on va vérifier. Bon, et puis il vaut mieux qu'il soit aussi produit chez nous qu'au Brésil, disent-ils. Alors une chose est sûre, les bêtes se partageront 1 mètre carré à 24 durant 40 jours, seront fabriquées pour pousser et non pour marcher, mais les poulaillers, eux, ouf, seront construits en plein air et en plein Gers. Alors, le bonheur n'est peut-être pas tout à fait dans le pré, mais dans le poulailler industriel, il y a de l'avenir. Bon appétit. Et donc au menu à nous, dans quelques instants, Jean-Marie Pelt, on va parler de miel. Oui, mais de miel un petit peu matiné d'OGM quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vais vous emmener, je vais vous parler de châtaigne. Eh bien, nous y voilà.
On ramasse avec les yeux. C'est-à-dire que, dire qu'il faut regarder les châtaignes. Quand vous avez une châtaigne dans la main droite, l'œil est déjà parti pour que la main gauche aille la saisir. Et quand la main gauche a saisi, la main droite a mis dans le seau. Mais l'œil a déjà saisi à ce moment-là la future que la main droite va prendre.
C'est pas de la mécanisation.
C'est du travail manuel. Ouais. Comme tous ceux qui travaillent très très vite, que ce soit en usine ou que ce soit à la campagne, quand on cueille haricots, choses comme ça, voilà.
On va aller à la rencontre d'un homme qui est tout à fait passionné. Nous sommes pas très très loin de l'Aigoual. On sera à Valbonne avec Michel Lévesque qui connaît, qui entretient amoureusement sa châtaigneraie Cévenole. Grand air avec lui. Et puis en fait, troisième volet, ce sera l'actualité avec Nathalie Fontrelle. On parlera aussi bien d'ordures ménagères que de réserves d'eau. Et puis je vous emmènerai également à La Réunion. Oula, il doit pas être loin, je le connais cet homme-là. Ah, je sens qu'on va butiner. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Les OGM et le miel, c'est une très belle histoire, une histoire qui nous vient d'Allemagne.
Oui, c'est l'histoire d'un apiculteur allemand qui s'appelle Monsieur Bablock. Alors, il se trouve que tout près de ses ruches, à une centaine de kilomètres de Munich, le Land Bavière a soutenu l'installation d'un champ expérimental de maïs Monsanto, oui. 810, donc d'un champ de maïs OGM. Et voilà que le miel de notre malheureux monsieur Bablock est contaminé et donc invendable. parce que les abeilles vont butiner sur ce maïs. Et alors, comme il avait des problèmes, il a fait faire des analyses dans un laboratoire qui a trouvé que dans ce miel, il y avait 4,1% d'OGM.
Ce qui est beaucoup.
C'était beaucoup trop, et c'était en 2005. Mais ça s'est aggravé parce qu'en 2008, il a refait des analyses, et c'était 8%. Donc oui. Il a été interdiction de vendre ce miel, et il a été obligé de brûler sa récolte. Or, c'est un ver.
Ah, donc.
C'est un ver allemand.
Alors, c'est un ver opiniâtre.
Opiniâtre. Et il a porté l'affaire devant la Cour de justice européenne, parce qu'on refusait de l'indemniser. Et pourtant, il avait tout fait pour ça. Alors, il avait même transporté ses ruches par un semi-remorque devant le siège du Parlement de Bavière à Munich.
Oui.
Il avait donc manifesté vigoureusement. Et la Cour de justice lui a donné raison, malgré la liste impressionnante des avocats internationaux, c'est très à la mode, vous le savez, dépêchés par Monsanto.
Qui ont un peu de moyens, quand même.
Tout à fait. Alors, il avait dépassé la teneur de 0,9% d'OGM dans son miel, qui est la limite tolérée par l'Union européenne. Parce qu'on a fait la part du feu, et on dit, si un aliment a moins de 0,9%, tant pis, on ne dira pas que c'est un aliment contaminé.
Donc ça veut dire qu'il aurait dû avoir une étiquette.
Alors il devrait étiqueter et marquer dessus miel OGM. Mais alors il n'y a plus un client.
Non.
Il n'en vend plus un seul pot. Donc la question qui du coup s'est posée pour lui, c'est qu'il fallait qu'il exporte en Amérique. Et oui, parce que là il n'y a pas besoin d'étiquetage. Mais il n'avait pas les réseaux pour exporter en Amérique. Et là, tout d'un coup, s'est posé un problème interne à l'Union européenne.
Parce qu'on peut l'élargir, cette affaire.
Tout à fait. Ouais. Nous consommons, dans l'Union européenne, 340 000 tonnes de miel. Mm-hmm. Là-dessus, il y en a 140 000 tonnes qui sont importées, et surtout d'Argentine et du Mexique, où on utilise beaucoup.
Et de Chine.
Et de Chine, où on utilise beaucoup les OGM. Pas en France, hein, puisqu'il y a un moratoire depuis 2008, suite au Grenelle. Alors, la question, c'est est-ce que l'Union européenne...
Petite parenthèse, ça fait partie vraiment des bienfaits du Grenelle.
Tout à fait, absolument. Alors, est-ce que l'Union européenne va maintenant recaler les miels qui viennent de ces pays-là parce qu'ils devraient être étiquetés miel à OGM ?
Oui.
Bon, mais alors, bien entendu, ces miels ne se vendraient plus. Donc, il faut donc que l'Argentine ne vende plus de miel à l'Union européenne, mais il faut qu'elle la vende aux États-Unis. Donc ça pose des problèmes. En réalité, c'est pas si grave pour l'Argentine, parce que l'Argentine, elle est complètement envahie par les OGM. On arrose le soja avec du Roundup, qui est un herbicide redoutable.
Ils en vendent plus de 60-70% en
absolument,
Chine, aux Chinois.
Absolument. Et comme les petites fleurs sauvages sont tuées par le Roundup, voilà que les abeilles n'ont plus rien à manger en Argentine. Alors la production de l'Argentine a dégringolé et elle est passée de 100 000 tonnes à 70 000 tonnes en quelques années. Ça a été extrêmement rapide et il faudrait donc qu'ils utilisent leur propre miel, ce qu'il ne faut pas non plus parce qu'ils ne font que exporter. Vous savez pourquoi ils n'utilisent pas le miel, les Argentins ? Parce qu'ils font quelque chose qui s'appelle le dulce de leche. La confiture de lait caramélisé.
Ah.
Vous voyez ce que c'est, ça ?
Oui.
Hein, c'est bon, hein.
C'est...
Moi, j'aime bien ça.
Oui, ça m'étonne pas, oui.
Ils font ça. Alors, bon, tout ça, ça prouve quoi ? Ça prouve que les OGM sont très mauvais pour la biodiversité, puisqu'il n'y a plus de petites fleurs sauvages en Argentine, que c'est très mauvais pour les abeilles, qui sont les sentinelles de l'environnement et de la biodiversité. Bref, c'est ce qu'on savait déjà.
C'est ça.
Mais ça, voilà que ça rebondit à un endroit où on ne s'y attendait pas.
Grâce à cet apiculteur allemand.
Grâce à cet apiculteur allemand. Et il faut rappeler que si on n'avait pas les abeilles, alors nous n'aurions plus beaucoup de fruits et de légumes puisqu'elles font la pollinisation et qu'on a évalué combien il faudrait payer si on faisait la pollinisation à la main.
Mais ce que font beaucoup de Chinois.
Oui, déjà.
Ils ont un peu de main d'œuvre, faut dire, mais c'est vrai qu'ils le font déjà.
Oui, eh ben, on a évalué que le service rendu par les abeilles, c'est 153 milliards d'euros.
Ouais.
Alors on va dire ceci, il n'y a plus d'abeilles. Donc on va créer de l'emploi. On va créer un nouveau métier,
formidable.
Les pollinisateurs de fruits et de légumes. On créera un master.
Ah bah oui.
Un master de pollinisateurs. Alors, on leur apprendra tous sur la pollinisation. Et moi, je ferai des cours, bien qu'étant en retraite, parce que c'est un truc que je connais bien. C'est mon métier. Je rappelle à tout hasard que je suis botaniste.
Oui, c'est ça.
Des fois, on s'en souvient plus.
Bon, mais écoutez, on va se souvenir que vous serez là la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie, et puis à bientôt.
Donc. Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et votre miel, vous, il n'y a pas trop de soucis.
Non, il est bon, le nôtre.
Oh ma beauté, suis-moi. Ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête, les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval, ton idiot, ton fatal. Toi, tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. Oh, give me abandonne. Oh, give me a day. Laisse couler. Oh, give me a. Laisse monter. Oh, give me a. Sans résister. J'ai rempli d'eau de mer la piscine. Pour mon Titanic et mes sardines. Les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, le jardin du pavillon. Je le change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison.
Give me a.
Abandonne.
Give me a.
Laisse couler.
Give me a.
Laisse monter.
Give me a.
Sans résister.
Give me a.
Abandonne.
Give me a.
Laisse couler,
give me a.
Laisse monter,
give me a.
Sans résister. La la la. Ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume de rossignol de Chine et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls.
Give me up sur France Inter, avec un petit côté Nino Ferrer, vous ne trouvez pas là, avec l'orgue Farfisa là derrière? Oui, oui, tout à fait, donc c'était Arthur H, choisi par notre excellent programmateur, il faut le dire, qui s'appelle Jean-Baptiste Audibert. Alors après notre page miel et OGM, une deuxième page nature, respirez, c'est parti, on part dans les Cévennes. Alors, on a au loin le col de l'Asquillier, d'ailleurs, qui est très très beau et qui est très original parce que au-dessus de ce col, il y a un petit pont et c'est une draille. Autrement dit, ce pont servait à la transhumance donc, des bêtes qui partaient de la plaine pour se retrouver sur la Margeride. Et donc, il y a un pont spécialement qui leur est dédié, hein, c'est ça?
C'est ça. Alors, donc, puisque vous parlez de la transhumance, effectivement, vous avez le passage de l'Asquillier. La particularité de Valbonne, c'est que le chemin de Valbonne, c'est une draille préhistorique,
ouais.
Puisque c'est le seul passage entre la vallée Sumène et la vallée de l'Hérault, c'est ici.
D'accord.
Les moutons qui s'engageaient sur cette partie-là, ouais, ont formé ce chemin de passage entre les deux vallées.
Alors là, on va avancer et on va rentrer dans votre châtaigneraie.
Alors quand on dit ma châtaigneraie, ce qui, pour que les auditeurs puissent bien s'imaginer, il ne faut pas s'imaginer une châtaigneraie avec un endroit où on rentre, où il y a tout d'un seul coin, un seul 10 ou 12 hectares devant soi. Ce sont toutes des petites parcelles. Ce qu'il faut toujours s'imaginer, les gens aussi voient la montagne et se disent, tiens, c'est la montagne. Ils ne pensent pas forcément que chaque mètre carré appartient à un propriétaire particulier. On a plusieurs parcs, on a plusieurs châtaigneraies. Là, on va rentrer dans une qui, pour moi, a un nom particulier. Quand on vient y travailler, on va pas forcément travailler de la même façon dans l'une ou dans l'autre, parce que son versant, son exposition n'est pas la même.
Alors, Michel Lévesque, le châtaignier est complètement féodé à l'homme. C'est-à-dire qu'on on voit sans arrêt au bord des routes donc des châtaigniers qui sont en train de crever, envahis par d'autres essences. Vous, c'est effectivement, c'est jardiner. Et c'est comme ça que vit une châtaigneraie.
Absolument. Alors, jardiner, là aussi, il faut le reprendre quand même pour bien comprendre. Donc, on est en bio. On ne traite pas les rejets. Donc là, vous l'avez devant vous. Hein. Alors là, on est typiquement dans le genre de travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de préparer le sol pour la récolte. Le sol doit être tondu, rasé, de façon à avoir les châtaignes et à ramasser très très vite, parce qu'on ramasse avec les yeux. C'est-à-dire qu'il faut regarder les châtaignes. Quand vous avez une châtaigne dans la main droite, l'œil est déjà parti pour que la main gauche aille la saisir. Et quand la main gauche a saisi, la main droite a mis dans le seau. Mais l'œil a déjà saisi à ce moment-là la future que la main droite va prendre.
C'est pas de la mécanisation.
C'est du travail manuel. Ouais. Et comme tous ceux qui travaillent très très vite, que ce soit en usine ou que ce soit à la campagne, quand on cueille des haricots, choses comme ça, voilà. Alors le jeune arbre, vous l'avez par exemple là, on le voit au milieu là, avec deux petites boques de châtaigne. Il faut se dire qu'on n'est pas sur du plat, hein, puisque là on est sur une pente de 30 à 40%. Et donc ce qu'il faut s'imaginer aussi, c'est qu'au départ, quand on veut rénover, on n'est pas du tout dans ce type de végétation. On est devant soi avec un mur de végétation, mais de 1,50 m à 5 m de hauteur, quoi, où il faut rentrer à la tronçonneuse pour tout couper, tout nettoyer. Et ensuite, c'est par force de broyage et de nettoyage qu'on arrive à avoir, comme vous le voyez là devant vous, de l'herbe pour les animaux et avoir un sol qui se forme au fur et à mesure, qui va nourrir le châtaignier. Quoi.
Alors, est-ce que justement, avec les animaux, ça redonne vie aussi à quand même toute cette faune, toute cette flore. C'est important. C'est-à-dire, lorsque c'est entretenu, il y a quand même des hôtes qui reviennent.
Le lapin va revenir, les perdrix reviennent, même au niveau de la flore en elle-même, à l'entrée du terrain, là-bas, on n'a pas vu, mais on a deux petites marques qui sont faites, on a deux orchidées.
Alors, il faut imaginer quand même la force de cet arbre, parce qu'il a en fait des griffes pour s'accrocher au grès, au schiste, au granit, au sable. Dès que c'est siliceux, il aime ça d'ailleurs. Hein,
je crois. Et puis alors, si on reprend à l'origine, quand l'humain a commencé à vouloir planter du châtaignier, il est communément admis que le châtaignier était autochtone et depuis toujours. Ce qu'on sait aussi, c'est que le mot châtaignier, en tant que langage écrit, apparaît dans l'écriture romaine, dans le latin. Il n'existe pas en grec. Mais le grec, lui, appelle amande tout ce qui est amande. Alors on ne sait pas s'il connaissait la châtaigne ou s'il ne la connaissait pas, puisque lui, la noisette, la noix, l'amande, c'était amande de toute
c'était
façon.
Pareil.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'au niveau de la greffe, ça apparaît à vers l'an 1000, quand les moines, etc., vont ramener les greffes, les premiers greffons d'Asie, de mûriers et de châtaigniers. Les deux viennent de là-bas. Ils vont commencer donc à faire ce qu'on appelle réellement des châtaigneraies, c'est-à-dire des ensembles de surfaces cultivées avec un arbre tous les 8 à 10 mètres, dans tous sens, et pour que l'arbre puisse s'implanter, ils vont construire ces tout petits murets qui n'ont rien à voir avec les traversiers. Là, on n'est pas devant des traversiers, on est devant des petits murets de retenue de terre. Donc, ils ont construit un tout petit muret qui fait 1,50 m, 2 mètres.
Donc, ça retient la terre.
Au maximum. Okay. Regardez bien. Ouais. Vous êtes en plein sur le rocher. Si on gratte, vous avez 5 cm de terre. C'est tout ce que vous avez à cet endroit-là. Hein. Ouais. Donc là, vous construisez un petit mur de 50 cm, 60
cm.
Vous retenez la terre. Ouais. Vous plantez 3 châtaignes. Les châtaignes vont germer, donc sur les 3 châtaignes, s'ils empilent un tas de broussailles, ces broussailles vont se composter pour que l'arbre puisse s'implanter. Le mur fait pleuvoir.
Ouais.
En plein été, en plein cagnard, le mur fait pleuvoir. La différence entre la température chaude de la journée et le froid de la nuit va faire une condensation dans le mur.
D'accord. Soleil et châtaignier, qu'est-ce que l'on peut dire, Michel ?
Ah ben c'est primordial parce que le châtaignier ne fructifie que sur sa partie ensoleillée. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais de châtaigne à l'intérieur d'un arbre. Les bogues, hein, on le voit là, sont toujours disposés sur la frondaison de l'arbre. D'où l'importance de la taille, qu'il faut toujours retailler l'arbre, tous les 3 ou 4 ans, même 2 ans pour les arbres les plus forts. Couper les branches de façon à garder la ramure la plus courte possible, de façon à avoir une belle surface exposée au soleil. Parce qu'après, plus on s'éloigne de l'arbre, plus la sève a du mal à aller au bout de la branche. Comme c'est au bout de la branche qu'il va y avoir les châtaignes, si la branche est trop longue, la châtaigne est mal alimentée. pour moi, l'arbre à pain, oui, c'est lui qui me fait vivre. Ah, oui, hein, c'est grâce à... Je ne vis que de
alors,
ça,
bon, à 100%. La châtaigne pure, la confiture, le miel, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, donc oui, il y a la châtaigne fraîche à l'époque de la récolte. Ensuite, donc confiture de châtaigne, crème de marron. Ensuite, donc la farine. Donc après, avec la farine, ça ouvre toutes les possibilités qu'offre la farine de châtaigne au niveau pâtisserie. Et donc, effectivement, du pain. Et le mélange avec le blé, on obtient des pâtisseries qui sont tout à fait légères, tout à fait acceptables.
Et alors le cher cochon, donc, il récupère aussi ce qui traîne après dans les châtaigneraies?
Ah ben, chez nous, le cochon, oui, c'est... Le porc, donc oui, va manger tout ce qui est rejet de châtaigne, donc au niveau confiture, tout ce qu'il peut y avoir en épluchage qui ne peut pas être utilisé, et au niveau du sec toujours, du tri du châtaignon, puisque tout ce qui est véreux va être éliminé.
Alors, ce qui est intéressant, non, mais c'est qu'on est dans un petit écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, vous bouclez la boucle pratiquement.
Ah, complètement.
Michel, en fait, il y a un travail toute l'année avec la châtaigne.
Hein, absolument. Ouais. Absolument, absolument. Il ne faut pas croire que souvent les gens disent « Ah, mais c'est la récolte ». Non, la récolte, comme toujours, c'est comme les vendanges, etc. C'est un gros travail d'un seul coup parce qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Mais derrière ça, va démarrer 6 mois de transformation. On finit à peu près de transformer vers le 15 avril. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille tous les jours à transformation parce qu'il y a aussi l'entretien, le ratissage, certains entretiens sur les arbres, notamment, sortir le bois mort, etc., etc. Mais le 15 avril, il faut absolument avoir fini parce que c'est l'époque où on va greffer. Ce qui m'a donné envie de m'occuper de châtaigniers il y a une 25 ans, c'est quand on a acheté un terrain où il y avait des châtaigniers. Et je suis monté avec mes gosses, on s'est arrêté devant un arbre, on a regardé le point de greffe, puisque 150, 200 ans plus tard, on voit toujours le point de greffe. Mmh. Et j'ai dit, tu te rends compte, si on voit cet arbre-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 150 ou 200 ans, il y a un être humain, un homme ou une femme qui s'est arrêté là, ce greffon a pris, c'est devenu un arbre et c'est l'arbre qu'on voit aujourd'hui.
Et alors là, vous avez vos bovins, tranquille.
Oui. J'en ai plus que 3, j'en avais une dizaine, mais maintenant j'en ai plus que 3, parce que pour des problèmes de...
Enfin, bonne débroussailleuse, quoi, quand même.
Ouais, pour des problèmes de rentabilité avec la nouvelle PAC, c'est plus la peine, quoi. Les petits troupeaux ne sont absolument plus aidés. Donc j'ai gardé une mère, une génisse et puis un bœuf. Donc le bœuf, quand on en a besoin, on le tue, on le mange. Oui. Le temps de tout ça, les deux vaches auront fait un veau, un pour faire un veau, l'autre pour faire un bœuf dans 3 ou 4 ans. Et en même temps, effectivement, elles entretiennent. Alors là, vous le voyez, l'entretien par les animaux, c'est l'idéal, quoi.
Ouais,
parce que là, le sol est propre. C'est...
Et donc, ils vont dans différentes parcelles?
Pendant toutes dans l'été, parce que là où il y a des jeunes arbres greffés, les vaches mangent d'abord les greffes.
Ouais,
parce que oui, la greffe est plus fraîche, la feuille est plus fraîche, beaucoup plus sucrée, bien meilleure que la feuille sauvage. Les animaux ne se trompent pas du tout entre les deux. Dans une touffe, ils vont directement sur la greffe. Donc partout où il y a des greffes, on ne peut pas les mettre. Et quand je parle de greffe, arbre greffé jeune, que les branches jeunes sont accessibles aux animaux, on ne peut pas les mettre, ils casseraient tout. Donc on ne peut les mettre que dans les parcelles où il y a de la vieille rénovation comme ici, quoi. Mais après, par contre, à l'automne et dans l'hiver, ils vont dans les parcelles inverses, où là il n'y a plus de végétation, enfin que les arbres, quand les feuilles sont tombées, pour entretenir et poser de l'engrais tout du long.
Et là, on va arriver dans la clède. La clède, on va rappeler quelle est la fonction de la clède.
Donc, la clède, c'est pour sécher les châtaignes.
Voilà.
Alors là, c'est la pièce du haut, c'est la salle de tri. Et c'est là que les châtaignes arrivent pour être travaillées. Donc, avec différents petits ustensiles très simples, quoi, un vieux ventilateur à air, un vieux venteur. Un bac pour tremper les châtaignes, des grilles pour les tamiser, et ensuite une trappe ici, donc comme vous le voyez, où il y a 4 trous que l'on retrouvera en dessous quand on sera dans la partie clède, où les châtaignes peuvent être envoyées dans les 4 points cardinaux de la clède.
D'accord.
Et ensuite une autre pièce ici, soit pour dépiquer les châtaignes, soit les tables pour trier, et etc. Alors, donc c'est très sommaire comme installation, puisque c'est un travail très poussiéreux.
Alors l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait monter de la chaleur, elle vient d'où cette
Alors,
chaleur? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit four, c'est quoi?
Là, on était dans ce que j'appelle moi la salle de tri, donc c'est la salle où on va travailler les châtaignes. Mais la partie séchage est en dessous. Donc là, immédiatement, quand vous entrez, vous avez le parfum de la châtaigne. qui est là. Un an après, puisqu'on a, on est à août, oui, donc 10 mois après la récolte et le séchage, on est quand même, l'odeur est toujours là.
Toujours là.
Et on peut mettre jusqu'à 10 tonnes de châtaignes en un seul chargement.
Ouais. Et donc, le feu est en dessous, c'est comment ?
Le feu est en dessous.
C'est quoi, c'est des bras zéro que l'on comprenne ?
Alors, à l'origine, dans les anciennes plaides, le feu était fait au niveau du sol. D'accord. Et chaleur et fumée passaient directement à travers la châtaigne. Aujourd'hui, avec le système que j'ai mis en place en dessous, le feu est toujours fait directement, mais il est fait dans une espèce de masse réfractaire qui vont absorber la chaleur et qui évite ce qu'on appelle le coup de feu. Okay. Parce que si un bois s'enflammait, ça brûlait les châtaignes qui étaient au-dessus. Maintenant, la fumée donc passe toujours bien à travers les châtaignes, comme traditionnellement dans les autres plaines. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une toiture, la fumée va aller buter contre la voûte. La voûte va absorber la chaleur. Mmh. La fumée va redescendre en boucle et partir par les tirants d'air que vous avez sur les côtés. L'hiver, c'est la plus belle saison. Moi, c'est la saison que je préfère. Ouais. L'hiver, d'abord, il ne fait pas très froid.
Ouais.
On n'est pas dans une zone très froide. On est à 300 mètres d'altitude, 350 mètres d'altitude. Le vent, les journées froides, c'est le vent qui souffle des gouales quand il passe sur la neige. Alors là, qui balaye, là, c'est infernal. Mais la neige, depuis une vingtaine d'années, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, un de mes meilleurs souvenirs au début qu'on était là, 45 cm de neige, 3 semaines d'isolement sans voir personne.
Vous aimez ça, c'est votre truc. En revanche, en ce moment, on l'imagine bien, il y a de l'eau dans ces Cévennes, donc il se gorge d'eau qui vient de la Méditerranée, qui la bloque, je dirais, un peu comme un rugbyman bloque le ballon, et puis donc après, elle la relâche brutalement dans les rivières, les torrents cévenols qui la serrent des schistes et qui se fracassent en bas. Bon, là où les hommes, c'est vrai, on construit souvent un peu en dépit du bon sens, mais d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Gouales voisins portent ce nom, donc avec l'eau dans son origine, et qui bat des records français de précipitations. Alors, c'est homme, on l'a très bien compris, le châtaignier vit vraiment en symbiose avec l'homme. Et Michel Lévesque, donc, qui est à Valbonne, c'est sur la commune de Saint-André de Machecoul, si vous connaissez, on est dans le département du Gard, dans la vallée de l'Hérault d'ailleurs, hein. L'Hérault prend sa source un peu plus haut, c'est la vallée de Valrogue. Et bien cet homme sait que cet arbre à pain a nourri des générations de cévenoles. Aujourd'hui, on voit plutôt des châtaigniers qui sont désossés par le chancre qui attaque l'écorce ou bien l'encre qui parasite les racines. Mais voilà, donc c'est un homme qui est exigeant, qui aime ce coin profondément, qui est là, qui s'en sort. Et puis quand même, cette châtaigne nourricière, bah oui, parce qu'elle a une composition qui est proche de celle du blé en amidon. Il y a 40% de glucides, vous avez plein de vitamines que vous ne trouvez absolument jamais dans la bouffe industrielle que l'on a donc les uns et les autres. Et voilà, et en plus cet arbre de civilisation l'est vraiment parce qu'il est résistant, il est imputrescible, il alimente les animaux aussi également. Et j'espère que cette bouffée donc vous a fait du bien. Donc avec Fabrice Lègle, je tiens à dire que c'est mon réalisateur, donc coloriste préféré, et qui a choisi toutes ces couleurs, toutes ces ambiances pour ce reportage, et que Michel Lègle vous a emmené prendre cet air. Donc sur une petite route, très simple, juste en trois mots, la route. Voilà, vous arrivez, paf, vous tombez sur le ciel. La châtaigneraie et donc cet homme que l'on remercie, Michel Lévesque. Il nous reste une actualité, me semble-t-il, avec Nathalie Fontrelle. Oh, bah oui.
Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Driving over the moon in my big hot air balloon, floating high into the darkness. I hope I get there soon. There's so many things to do, so many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay.
stars forever be green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen, I don't know what's yet to come. Not sure of anything that I've done makes that much difference. Well, I hope it has for some. Mm-hmm. Something special happened today. I got green lights all the way, yeah. With no big red sign to stop me, no traffic jam.
Très marrant parce qu'au début, si vous écoutez bien, c'est à peu près la même grille d'accord que Stewball de Hugo Frey. Je sais, c'est pas la même chose du tout, mais quand même, hein, mais quand même. Allo et Black, c'était Green Light sur France Inter. Elle est là, allez, c'est parti.
Dans la charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Eh oui, bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Vous avez votre petit sac de châtaignes, là, vous êtes...
Écoutez, il ne fait pas encore assez froid pour manger des châtaignes, je trouve.
D'accord, nous attendons, je vous en ai rapporté, comme vous avez compris, donc des Cévennes. Et on va commencer avec un nounours et l'Élysée, Nathalie.
Écoutez Denis, franchement un peu de respect, quoi, on pourrait se méprendre. Hein. En fait, il s'agit d'un ours en peluche offert au couple présidentiel à l'occasion de la naissance de leur fille par l'association Férus.
Association pro-ours.
Qui regrette évidemment que le président n'ait pas tenu sa promesse de réintroduire une nouvelle femelle dans les Pyrénées. Alors qu'une autre association, l'Adette, a mené l'enquête sur les coups de dents des ours sur les brebis, eh bien cet été, les ours ont été responsables de moins de 1% de la mortalité des troupeaux.
Du côté bouc émissaire, il faut peut-être un peu s'en méfier quand même. On va mettre le cap sur les finances maintenant, avec un coup de gueule de l'UFC Que Choisir sur le coût du traitement des ordures ménagères.
C'est un peu à la mode. Hein. Vous vous souvenez du rapport de la Cour des comptes, hein, qui a déjà s'étonné du prix de nos poubelles. Eh bien, l'UFC, elle aussi, a mené l'enquête. Et la facture est de fait de plus en plus salée. Et surtout, elle est très inégale d'un territoire à l'autre. Grégory Carré est directeur des études de l'UFC.
En moins de 20 ans, il faut savoir que cette taxe, le montant de cette taxe a quadruplé. Donc ça commence à représenter des niveaux assez importants. Sur l'ensemble du territoire, on est à un niveau pour l'année 2009 de plus de 5,4 milliards d'euros.
Avec des écarts de prix inexplicables.
Alors, avec des écarts de prix inexplicables, en effet, le niveau moyen de taxe par habitant en France, il est de 99 euros. Donc on voit déjà que ce n'est pas un montant négligeable, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux très importants écarts de coûts qui peuvent aller de 31 euros pour certaines collectivités à plus de 400 euros, où là, on a des montants, vous voyez, qui sont extrêmement importants. On est dans un rapport de 1 à 10. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer parmi les éléments explicatifs? Vous allez bien sûr avoir le gisement par habitant. Plus vous produisez de déchets, plus ça va coûter cher. Alors ça veut dire que la collectivité doit fortement impliquer les consommateurs et les citoyens pour essayer de diminuer leur gisement de déchets. C'est bien pour leur facture et c'est bien pour la planète. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont injustifiables, qui ne permettent pas d'expliquer les différences. C'est la gestion déléguée. On constate que pour la collecte, par exemple, le coût est 10% supérieur quand vous êtes dans une gestion déléguée par rapport à une gestion en régie. On a identifié à peu près un quart des collectivités, 23% pour être précis, où là, on avait véritablement, au regard du service, des surcoûts injustifiés.
Les sociétés privées plus chères que les régies municipales, sans blague. Mmh. C'est une critique que l'on entend aussi hein, sur le prix de l'eau.
Eh ben, on est bien étonné. Alors l'eau, justement, donc, parce que le baromètre annuel du Centre d'information sur l'eau, les Français et l'eau, vient d'être publié.
Avec une constante, les Français ne connaissent toujours pas le prix du mètre cube. Marie-Lys Massé est directrice du CIO.
Si on leur demande au mètre cube, vous payez combien l'eau, ils en sont à 6,40 euros. alors que le prix moyen de l'eau en France, c'est 3,40. Et il faut rappeler que si on regarde au litre, parce que c'est aussi intéressant, le prix du litre moyen en France de l'eau du robinet, c'est vous prenez un tiers de centime et vous avez le prix de l'eau du robinet au litre. Ils pensent que l'eau du robinet est plus chère que leur téléphone, par exemple, que ce soit du téléphone fixe ou du téléphone portable. C'est humain. Ils acceptent mieux de payer leur facture de téléphone parce que c'est un confort, parce qu'ils ont choisi eux-mêmes, parce qu'ils ont pu faire jouer la concurrence. Et l'eau, quand même, a toujours, dans la culture générale, on pense toujours que l'eau est gratuite et qu'on ne voit pas pourquoi on la paierait. Or, les gens font une petite confusion, c'est que ce n'est pas l'eau qu'ils paient, c'est le service de l'eau qu'il paie, c'est le transport, c'est tous les contrôles, c'est les traitements.
En tout cas, entre le portable et l'eau, quand même, il n'y a pas photo. Je me souviens de quelqu'un qui disait, mais il ne manquerait plus qu'on paye les nuages. Hein, voilà. Et oui. Alors, il y a toujours eu quand même une méconnaissance, Nathalie, hein, sur le cycle de l'eau.
Oui, 47% des Français pensent encore que les eaux usées sont directement retraitées pour être transformées en eau potable. En clair, oui. Ils pensent que lorsqu'ils tirent la chasse, eh bien, l'eau revient au robinet de la cuisine.
Ça peut dire, en gros, c'est... Et ils croient boire leur pipi caca, c'est un peu ça.
Oui, alors bon, c'est possible, hein. On peut fabriquer de l'eau potable avec de l'eau extrêmement polluée, il suffit d'y mettre le prix et la technologie nécessaire, mais c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Les eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration, de dépollution, et elles sont ensuite libérées dans le milieu naturel.
Alors plus ou moins dépolluées d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a quand même des résidus de médicaments qui passent aussi à travers les grilles, entre autres.
Hein. C'est vrai. Et puis 25% des Français affirment qu'il n'est pas risqué de faire la cuisine avec de l'eau de pluie, alors que le risque sanitaire est avéré.
Alors, en tout cas, ils ont majoritairement confiance dans l'eau du robinet. Il faut quand même dire aussi que c'est le bien de consommation le plus surveillé au monde.
C'est vrai. Même s'ils estiment toujours qu'ils ne sont pas assez informés. D'ailleurs, les distributeurs travaillent actuellement avec le ministère de l'écologie pour trouver des solutions innovantes et appliquer à l'eau du robinet l'étiquette environnementale.
Alors, Une de plus.
Et voilà. Ouais. Explication avec Hélène Valade, qui est directrice du développement durable de la Lyonnaise des Eaux.
Solliciter Internet, inventer un système qui permette dans le robinet de donner des informations pour le consommateur. On est en train de travailler sur un certain nombre de pistes comme cela.
Mais comment dans le robinet ?
On pourrait très bien imaginer des petites étiquettes au robinet. On est en train de tester un certain nombre de pistes pour qu'il y ait une proximité de l'information par rapport à l'usage quotidien du consommateur. On n'a pas encore trouvé, voilà, on examine un certain nombre de pistes en ce moment.
L'empreinte carbone de l'eau du robinet, elle est importante ?
L'empreinte carbone de l'eau du robinet, elle est importante à cause de l'eau chaude, mais moins à cause de l'eau froide. Donc là aussi, ce sont des informations qui sont moins connues, mais qui peuvent aider le consommateur à faire des choix, à utiliser par exemple moins d'eau chaude pour certains usages. Et là aussi, on considère qu'il faut les informer là-dessus.
Mais oui, allez, prenez une douche froide, c'est tout, voilà, même si c'est pas la saison, c'est pas grave. Oh, tenez, écoutez.
Tiens, il pleut flic-flac, une heure, il pleut flic-flac, deux heures, il pleut flic-flac, trois heures, il pleut flic-flac, quatre heures, il pleut flic-flac, cinq heures, il pleut...
On ne s'en lasse pas, c'est une merveille. Voilà, ce n'est pas un garçon qui a fait une grande carrière, faut bien le dire.
C'est dommage.
C'était mon ancien prof de Sciences Éco en plus, vous voyez, donc il s'appelait Clotaire, et donc il avait pondu ce flic-flac délicieux, alors qu'on reste dans l'eau, donc l'eau qui tombe du ciel, Nathalie. Parce qu'après un été pluvieux, on pouvait espérer un répit sur le front de la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas, hein. Les nappes phréatiques sont toujours déficitaires.
Oui, 60% des nappes sont en dessous de leur niveau normal, surtout dans la partie nord du pays. Et les pluies violentes qui sont tombées cette semaine et qui tombent encore sur le sud ne vont pas forcément faire du bien. On va le voir. Hein. Alors quel est le bilan du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière en charge de la surveillance ? Philippe Vigouroux est hydrologue à Montpellier.
On voit que les précipitations de septembre et les plus efficaces ont été, pour ne pas dire nulles, mais vraiment très réduites. On le voit sur la carte qui est présentée par Météo France, où on est sur un déficit de pluie efficace relativement fort, puisque la carte est toute rouge. Donc on est à une période charnière. On a quand même plusieurs années de déficit cumulé qui nous conduisent à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que tout ça, ça apparaît sur les courbes statistiques. Il est vrai qu'il faudrait soit un très bon hivernage, enfin un très bon hiver pluvieux pour retrouver une situation normale, soit effectivement quelques années où on est quand même des pluies sérieuses pour pouvoir remonter ces niveaux de nappe. On a le résultat de plusieurs années de déficit.
Alors Nathalie, pourquoi parle-t-on de pluie efficace ?
Eh bien parce que tout dépend des saisons. En été, en fait, la végétation, les cultures boivent beaucoup. Oui. C'est ce qu'explique Serge Lallier, il est ingénieur au Bergème à Orléans.
Quand on considère disons, la pluviométrie globale, il faut savoir qu'en gros, 62% de cette eau qui nous arrive par la pluie, par la neige, repart sous forme d'évapotranspiration et d'évaporation. C'est-à-dire qu'il y a une très forte contribution de la végétation à renvoyer à l'atmosphère cette eau qui nous est arrivée. La reprise de la pousse de printemps va énormément contribuer, je veux dire, à pomper l'eau qui arrive, l'eau du sol et l'eau des précipitations. Toute l'eau qui va arriver va repartir à l'atmosphère. À l'inverse, en période, disons, automnale, quand tout a été récolté, que les champs sont partiellement nus ou simplement les semences à l'état de germination, une grosse partie de l'eau qui va arriver à la surface du sol va pouvoir s'infiltrer. Déduction faite, évidemment, des écoulements de surface. Il faut qu'il pleuve. Alors, il est bien évident que des pluies, j'allais dire, régulières et qui s'étalent sur une longue période seront beaucoup plus efficaces que des pluies violentes, concentrées, qui vont donner un écoulement de surface, un ruissellement de surface très important. Donc, une bonne pluie régulière, bien étalée dans le temps et la meilleure contribution à la recharge des nappes.
Nathalie, si moi je suis un beau chêne par exemple, qu'est-ce que je vais renvoyer comme ça
dans l'atmosphère ?
Oui.
Ah bah vous allez évapotranspirer, comme on dit, ou transpirer oui, hein, tout bêtement, 400 litres d'eau par jour.
Ah d'accord, pas mal. Les pluies donc efficaces sont celles qui tombent en automne et en hiver.
Ce sont elles qui font effectivement remonter le niveau des nappes de façon d'ailleurs quelquefois spectaculaire. Hein. En fait, tout dépend de la géologie. Mmh. Ça peut être quelques jours pour des nappes superficielles, plusieurs mois, voire des années pour les aquifères les plus profonds.
Et en tout cas, la France dispose d'un stock d'eau quand même important.
On l'estime, c'est une estimation, hein,
oui.
1000 milliards de mètres cubes. Le problème, c'est que la goutte d'eau n'est pas toujours disponible. Mmh. Nathalie Derfliger, du service eau du BRGM.
On peut forer plus profond, mais toute la question est de savoir que ce réservoir dans le sous-sol, il faut qu'il soit alimenté par les pluies efficaces, par la recharge. Autrement, on va surexploiter le stock qui ne va pas être renouvelé et on court après à des problèmes de qualité de l'eau parce que ça va influencer la minéralisation de l'eau. Et donc, ce n'est pas juste une histoire de forer plus profond. Dans certains aquifères, vous pouvez forer plus profond, vous ne trouverez pas plus d'eau. Tous les aquifères ne sont pas forcément exploités de la même manière. Si vous prenez les grands causses dans la région du Sud, on a des aquifères qui sont exploités au niveau des sources, mais qui ne sont pas exploités par forage parce qu'il est trop difficile d'arriver à intercepter la ressource qui transite de manière suffisante pour avoir des pompages corrects.
Donc, applaudissez la pluie, même de ces derniers jours. Bah oui, parce que sans hiver pluvieux, eh bien, la France risque encore le régime sec au printemps prochain.
Ah oui, enfin, la pluie, pas trop quand même. Attention aux
inondations. Juste ce qu'il faut. Très bien. Et on va maintenant aller à la Réunion. On va aller dans la forêt du Maïdo à 2000 mètres d'altitude, car on le sait, dans ce parc national de la Réunion, eh bien, donc, un salopard, il n'y a pas d'autre mot, donc, a mis le feu. Donc, un incendie dingue, incroyable, dans la plus importante réserve de biodiversité terrestre des Mascareignes. Et rappeler aussi qu'il y a des hommes qui sont derrière, c'est-à-dire qu'il y a des pompiers exemplaires, il y en a eu plus de 51 blessés et d'autres personnes vraiment qui sont volontaires et qui sont tout à fait admirables. Et donc avec vous Hervé Ouin, vous êtes le directeur régional de l'ONF, faites-nous s'il vous plaît déjà un petit point sur ce feu.
Donc ce feu est toujours contenu dans son enveloppe autour de 2800 hectares. Et il y a des résurgences, des reprises donc à l'intérieur de ce pourtour. Ça veut dire que les poches qui étaient encore vertes, les incendies se développent à l'intérieur au gré de la reprise des vents sur les hauteurs.
Qu'est-ce que l'on peut espérer après, une fois que le feu donc sera éteint dans cette forêt de Maïdo ? Racontez-nous, parce qu'évidemment de très nombreuses espèces ont été dévastées. Qu'est-ce qu'il peut se passer d'un point de vue écologique ?
Alors nous travaillons déjà une stratégie de restauration de l'ensemble de ces milieux en concertation avec le Conseil général qui est propriétaire de ces forêts et avec le parc national. Alors concrètement, ça consiste à regarder parmi l'ensemble de ces espèces endémiques quelles sont les espèces les plus rares que nous connaissions. Nous savions exactement où elles étaient situées. Et donc à l'occasion de la reprise des pluies à partir du mois de décembre, nous allons regarder ce qui reprend. Et nous allons nous assurer que ces espèces les plus rares ne soient pas asphyxiées par d'autres espèces un petit peu plus conquérantes. Donc ce sera une des premières actions. Et deuxième action importante, ce sera de lutter contre les espèces exotiques envahissantes, qu'on appelle ici les pestes végétales, comme par exemple l'ajonc d'Europe et l'acacia, pour que ces espèces envahissantes ne prennent pas en fait la place des espèces endémiques. Donc c'est un gros challenge, mais je dirais que ce n'est pas la première fois que ces territoires sont parcourus par le feu. Nous avons l'expérience de pouvoir restaurer convenablement ces milieux.
En ce qui concerne la faune, qu'est-ce que l'on peut dire aussi, bien sûr, puisqu'elle est inféodée donc à ce milieu?
Alors bien sûr, la faune, qui est principalement l'avifaune, donc les oiseaux, ont particulièrement souffert à l'occasion de ces incendies. Alors, pas les adultes, hein, bien sûr, ils ont pu fuir, mais nous étions en période de nidification et donc les nids de tous ces passereaux forestiers ont disparu. Donc, ça veut dire que la nidification de cette année est perdue et les adultes vont pouvoir se déplacer sur des territoires annexes et on l'espère pouvoir à nouveau se reproduire dès l'année prochaine.
Quelles sont les espèces fabuleuses, endémiques, qui sont très intéressantes et qui appartiennent donc véritablement à La Réunion et à ce parc?
Alors, nous sommes dans des milieux très particuliers. Hein. C'est l'île de la Réunion est la seule île dans l'ensemble de l'océan Indien dont l'altitude dépasse les 2000 mètres. Donc, se sont développés sur cette île des végétaux de type altimontain, hein, comme dans les Alpes, hein, une végétation avec des éricacées. Et donc, et parmi ces végétaux altimontains, les branches, les ambasiles, les fleurs jaunes, nous avons des espèces encore plus rares, en particulier des espèces de fougères, des petites orchidées. Et c'est sur ces espèces-là que nous allons apporter notre attention en termes de restauration et s'assurer que la banque de graines qui est présente dans le sol que ces graines puissent bien reprendre et ne soient pas étouffées par d'autres végétaux.
On a des risques d'érosion, on imagine bien qu'une terre donc, qui aura été délavée donc, présentera des risques d'érosion.
Oui, donc cette perte de sol fait partie des priorités sur lesquelles nous allons lutter dès la fin de l'incendie. Concrètement, ça va consister à essayer de placer des branches sur le sol pour essayer de freiner l'érosion, puisque dès mi-décembre, nous sommes susceptibles d'avoir le retour des cyclones, et donc il ne faudrait pas ajouter une catastrophe à une autre, et donc éviter que les sols ne partent dans l'océan.
Écoutez, on vous souhaite bonne chance à tous les Réunionnais, donc on est aussi avec vous. Merci Hervé Ouin, et puis à très bientôt.
Merci.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Drôle de vie, vie de dingue, où l'écologie, l'environnement passent par perte et profit. Ben oui, c'est comme ça, mais c'est pas grave, on continue.
Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
CO2, mon amour.
Oui, bien sûr, nous allons continuer donc avec vous, Nathalie Fontrelle. Je dirais, et la lumière fut. Mais quand celle-ci est détériorée, que fait-on, Nathalie, des ampoules ? Alors, bientôt du nouveau dans le recyclage des lampes basse consommation.
Alors, vous savez qu'elles sont déjà au top du recyclage. En tout cas, c'est ce que dit Hervé Grimaud, directeur général de Recylum. C'est l'organisme qui est en charge de la gestion des lampes usagées.
Oh, dans une lampe, oui, quasiment tout est clable. Il y a du verre, bien évidemment. On réutilise le verre pour fabriquer des tubes néon neufs, par exemple. Il y a des matières plastiques qu'on peut incinérer pour récupérer la chaleur ou faire de l'électricité. Il y a des métaux, de l'aluminium, du cuivre qu'on peut recycler. Et maintenant, des poudres fluorescentes qui vont bientôt être récupérées pour être elles-mêmes recyclées, puisqu'elles contiennent des fameuses terres rares, qui sont des métaux que les industriels ont de plus en plus de mal à se procurer et donc que nous allons recycler à partir de l'année prochaine. Nous ne savions pas jusqu'à présent quoi en faire. La société Rodia, qui est une société de la chimie française, a annoncé, au terme de travaux que nous avons menés avec cette société pendant 2 ans, sa capacité à les recycler. Et ces terres rares représentent à peu près 20 tonnes par an. Ça paraît relativement peu dit comme ça, mais ce sont des matières qui ont des caractéristiques tellement extraordinaires qu'il suffit d'en mettre très peu dans les équipements, les téléphones portables, les téléviseurs, les batteries de voitures électriques, pour arriver à améliorer leurs caractéristiques techniques.
Alors on ne les garde pas dans sa poche, qu'est-ce qu'on en fait de ces terres rares, Nathalie ?
Ben aujourd'hui, comme elles ne sont pas encore recyclées, on les stocke dans des centres de traitement.
À la fin du mois, on va reparler du climat avec les négociations de l'ONU, donc qui reprennent à Durban, en Afrique du Sud.
Et c'est l'occasion pour de grandes entreprises mondiales de lancer un appel au gouvernement de la planète. Près de 200 entreprises, dont la filière britannique d'EDF, EDF Energy, son président Vincent de Rivaz.
Je crois profondément que l'enjeu du changement climatique est un enjeu majeur. Je pense qu'il est très important que, nonobstant la crise dure, les enjeux du changement climatique ne soient pas perdus de vue. Ça nous oblige à combattre encore plus, mais à le faire de façon encore plus efficace. Il ne s'agit pas de le faire dans des conditions qui rajoutent à la crise économique, aux difficultés financières des États ou des entreprises ou des individus. Mais ne rien faire n'est pas une option. Je n'ai pas été victime du post-Copenhagen blues et je pense qu'il faut maintenir le cap avec détermination et réalisme.
Mais est-ce que ce n'est pas en quelque sorte vous tirer une balle dans le pied parce que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi économiser de façon drastique l'énergie.
C'est un débat qui a été tranché. Comment voulez-vous qu'une entreprise comme EDF prospère si elle n'accompagne pas les grands enjeux de la planète ?
On peut les croire sur parole, Nathalie ?
Écoutez, parmi les signataires, il y a Air France KLM. Alors ouais. C'est vrai que la compagnie fait des efforts en utilisant du carburant vert, en réduisant le poids du matériel à bord, comme celui du gobelet en plastique qui a été allégé. Ah. Mais parallèlement, comme toutes les compagnies d'abord, elle s'oppose à la mise en place des quotas d'émissions de CO2 dans le transport aérien. Vous savez que l'Europe prévoit de lancer ce système l'année prochaine, en 2012. Comme pour les entreprises, eh bien, il s'agira de mettre sur le marché des permis de polluer. Si une compagnie pollue moins, elle pourra revendre ses permis. Si elle pollue plus, eh bien, elle devra en acheter. L'objectif étant de les inciter à réduire leur consommation et donc leurs émissions de gaz carbonique. Mais vu l'opposition de l'Organisation civile internationale, eh bien, ce n'est pas gagné. Non. Sans compter les menaces de la Chine, si vous imposez ces quotas à nos avions, attention aux représailles économiques, on pourrait bien ne plus acheter vos Airbus.
Cool. Climat toujours, ou plutôt Météo France avec ce nouveau pictogramme, on l'a vu sur la carte de vigilance de Météo France.
Pour alerter sur les risques de submersion marine. Alors vous savez que les tempêtes de 1999 avaient donné naissance à cette carte de vigilance pour tenter d'inculquer la culture du risque aux Français. La tempête Xynthia et ses victimes ont commandé d'intégrer cette nouvelle information sur la submersion. François Jacques, PDG de Météo France au micro de Mylène Saxic.
Ce qu'on appelle une submersion marine, c'est en fait plusieurs phénomènes qui se produisent simultanément. Vous avez la marée, donc la marée fait que la mer est plus haute que d'habitude. Vous avez des tempêtes. Les tempêtes, ça fait des baisses de pression et ça fait encore monter le niveau de l'eau. Et comme vous avez du vent, en plus, vous avez des vagues qui déferlent sur la côte. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, la marée qui fait que le niveau de la mer est plus haut, la tempête qui le fait encore monter et puis les vagues, et bien vous pouvez vous retrouver avec 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, plusieurs mètres largement au-delà de ce qu'on connaît d'habitude sur le littoral. C'était pas inséré dans un dispositif d'avertissement et d'alerte où le public en avait conscience et où le public avait des conseils de comportement qui lui permettaient de se mettre à l'abri et de se protéger. C'est vraiment par excellence destiné à permettre d'éviter que des choses comme Xynthia ne se reproduisent. Ce qui fait le succès de la vigilance aujourd'hui, c'est que à peu près 85 à 90% des Français la connaissent et disent suivre les conseils de comportement.
Il ne reste plus maintenant qu'à inventer un pictogramme que l'on va mettre dans le cerveau des maires qui délivrent des permis de construire en zone
inondable. Dans les zones inondables.
Bah, bien sûr. Allez, vive les PLU. Merci beaucoup, chère Nathalie.
Et merci puis, à vous, Denis.
Puis, ne prenez pas l'eau, il y en avait beaucoup quand même.
Ah là, il y avait beaucoup d'eau, oui.
Voilà, et puis à très bientôt.
À bientôt.
Salut. Merci Michel Thomas, Éric Morin, la technique, Stéphane Combe, notre assistant, Fabrice Lègle qui a réalisé cette émission, à Patrick Deschamps, ami de l'Isère, à Jean-Baptiste Olibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. On se retrouve la semaine prochaine avec vos questions qui sont arrivées au 01 56 40 40 35. Donc, questions auditeurs, on le fait régulièrement pour répondre à ce qui vous intéresse aussi à vous. Voilà, l'atelier du Mont Petit Loup, ce sera demain 19h55. On est à la bourre de Nichesso. Je vous souhaite un excellent week-end. Un peu de pub, allez, flamenco.